Livre du prophète Jérémie, chapitre 15, à partir du verset 16. J'aime beaucoup ce passage parce que c'est un passage qui nous ressemble, ou qui est susceptible de nous ressembler, dans lequel nous pouvons nous retrouver à tout instant, qui que nous soyons. Tes paroles se sont trouvées devant moi, et je les ai dévorées. Tes paroles ont fait l'agrément et la joie de mon cœur, car ton nom est invoqué sur moi. Éternel, Dieu des armées, je ne me suis pas assis dans l'intimité des rieurs pour m'y amuser. Sous ta main puissante, je me suis assis solitaire, car tu me remplissais de fureur. Pourquoi ma souffrance est-elle continuelle? Pourquoi ma plaie est-elle incurable? Ne veut-elle pas se guérir? Serais-tu vraiment pour moi comme une source de déception, comme une eau dont on n'est pas sûr? C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel. Si tu reviens à moi, je te ferai revenir à ton poste devant moi. Si tu sépares ce qui est précieux de ce qui est vil, tu seras comme ma bouche. C'est à eux de revenir à toi, mais ce n'est pas à toi de revenir à eux. Je ferai de toi, pour ce peuple, un mur de bronze fortifié. Ils te feront la guerre, mais ils ne l'emporteront pas sur toi. Car je suis avec toi pour te sauver et te délivrer. Je te délivrerai de la main des hommes mauvais. Je te libérerai de la main des tyrans. Amen. La problématique et la réflexion que j'aimerais mener avec vous ce matin est la suivante. Comment vivre la souffrance, et j'ai envie de dire la souffrance inévitable, dans le service ou dans la marche avec notre Dieu? C'est une problématique qui n'est pas forcément gaie, ce n'est pas une problématique qui est forcément entraînante, parce qu'elle soulève un problème, elle soulève une évidence que nous voulons voir ou que nous, parfois, nous voulons nous cacher. C'est que la marche avec Jésus n'est pas un chemin qui est pavé de roses, qui est pavé de facilité, mais plutôt c'est un chemin qui parfois est difficile et chaotique. Et parfois nous sommes un petit peu comme le prophète et nous mettons dans notre cœur et nous repassons des cris dans notre cœur. Pourquoi ma plaie est-elle continuellement devant moi? Pourquoi est-ce que ma souffrance est continuelle? Pourquoi je ne cesse pas de souffrir? Pourtant j'ai un Dieu qui est tout puissant. Pourtant j'ai un Dieu qui est glorieux. Nous le verrons tout à l'heure. Pourtant je suis un homme, je suis une femme qui est fidèle. Et cependant je vis dans la souffrance. Cette problématique nous met en face d'une réalité. C'est que servir Dieu et vivre avec Dieu, ce n'est pas l'assurance tout risque. Ce n'est pas l'assurance d'être finalement heureux au sens humain du terme. Pour quelles raisons? Les raisons sont diverses et variées. La première, c'est parce qu'il y a des combats spirituels. Et nous savons que notre ennemi, le diable, rôde, ne sachant qu'il est voré. La seconde, c'est que nous sommes dans un corps corruptible. Et à ce titre, eh bien, notre corps, il est malade. Vous le savez aussi bien que moi. Notre corps, parfois, il nous joue des tours. Dans la corruptibilité rentre également le fait que parfois nous avons des pensées assez étranges qui nous traversent. À qui cela n'est-il pas arrivé d'être en prière et tout d'un coup de dire « Mais à quoi je suis en train de penser là ? À quoi suis-je en train de penser ?» Et parfois des pensées qui ne sont pas toujours extraordinairement valorisantes. La troisième raison, c'est que ceux qui nous entourent également sont dominés par ce corps corruptible. Je ne sais pas, mais si vous regardez à côté de vous, vous voyez un homme, une femme qui a des failles et qui parfois est susceptible de vous faire mal. Votre patron, il n'est pas toujours un patron idéal. Mais cela n'est pas forcément de sa faute, c'est tout simplement parce qu'il vit dans le même corps que le vôtre. Et lui, lorsqu'il parle de vous, il dira qu'il n'a pas un employé qui est toujours idéal. C'est vrai ou pas? Mesdames, est-ce que votre mari est toujours parfait? Messieurs, je ne vous ai pas demandé de répondre. Mais messieurs, est-ce que vos femmes sont toujours parfaites? Il y a beaucoup plus de noms là, de ce côté-là, je ne sais pas pourquoi. Est-ce l'étalage d'une vérité? Mais une chose est sûre, c'est que finalement, nous côtoyons des hommes et des femmes qui sont par nature imparfaits. De ce fait, notre marche est rendue parfois difficile. Et puis, pour couronner le tout, quatrièmement, nous sommes à la fin des temps. Et dans les derniers temps, les hommes deviendront fanfarons, amis de l'argent, ingrats, seigneurs, rebelles, leurs parents, égoïstes. Enfin, nous connaissons la liste. Et tout cela fait que vivre dans notre société aujourd'hui, et vivre une vie chrétienne authentique dans notre société aujourd'hui, des choses de particulièrement compliquées. Alors, maintenant, comment faire pour vivre ainsi? Et j'aimerais qu'on se mette un petit peu dans la peau du prophète Jérémie. J'aimerais que ce matin, nous devenions tous des Jérémie. Imaginez-vous qu'un jour, un matin, Dieu envoie un ange et vienne vous taper sur l'épaule, ou Dieu en personne, ou Jésus en personne vienne vous taper sur l'épaule, et puis qu'il vous dise, allez, va prêcher dans la ville de Nantes, le fait que la ville de Nantes va être rasée, va être détruite, et puis il faut que tu dises à ton peuple qu'il faut qu'ils acceptent le joug de l'ennemi avant que cet incident arrive, avant que cette invasion n'arrive. Je ne sais pas comment est-ce que vous réagiriez. Mais en tout cas, Jérémie, lui, il a dit, je suis bien jeune, ça n'a pas été un problème pour celui qui l'avait appelé, et il est entré dans cette mission. Il s'est retrouvé dans une cité, retrouvé devant le roi, il s'est retrouvé raillé, etc. Mais c'est un homme qui a servi. Mettons-nous dans la peau d'Jérémie. Voyez-vous, c'est un homme qui a souffert. C'est un homme qui, lorsqu'il parle de cette souffrance, la connaît dans son quotidien. Et ici, nous voyons toute la frustration d'un homme. Que ce n'est pas la souffrance en elle-même qui lui pose problème. Ce n'est pas le fait d'être raillé. Ce n'est pas le fait d'être mis de côté. Ce n'est pas le fait d'avoir été jeté dans une citerne. Mais nous allons voir ce qui lui pose vraiment un problème. Et quelque part, on va réfléchir sur nous-mêmes. Et nous allons voir que peut-être, dans notre cœur, nous avons le même raisonnement que le prophète. Ce que l'on voit, c'est que la frustration du prophète vient éminemment de son attachement à Dieu. Quand on lit les premiers versets, qu'est-ce qu'il dit ? Il dit « Tes paroles se sont trouvées devant moi et je les ai dévorées. » Ce que dit le prophète, c'est qu'il a été toujours fidèle. Non seulement il a lu sa Bible, il n'y en avait pas à l'époque, mais non seulement il a écouté la parole de son Dieu, non seulement il a été fidèle à l'appel de son Dieu, non seulement il a fait ce que son Dieu lui demandait, mais en plus, il a dévoré ses paroles. En plus, il a aimé le faire. Et je dirais, mes frères et sœurs, que dans ce texte, il y a une grande vérité. C'est que non seulement nous devons obéir à la parole de Dieu, obéir à la voix de Dieu, mais nous devons aimer le faire. Mesdames, si vous n'aviez pas laissé la chance à votre mari de vous séduire, si vous ne lui aviez pas laissé du temps, y serait-il parvenu ? Et vice-versa ? Est-ce que nous donnons du temps à la parole pour nous plaire ? Est-ce que nous donnons du temps à la parole pour nous plaire ? Le prophète, il a été fidèle à la parole, il va l'aimer, il va la dévorer. Et le prophète, il va également être de ceux qui ne s'assoient pas sur le chemin des moqueurs. Il va dire, voilà, j'ai laissé de côté tous ceux qui parlaient mal, j'ai laissé de côté tous ceux qui n'étaient pas bons pour moi, je me suis séparé. Mais toute la frustration du fait que j'ai été fidèle, j'ai fait ce que tu m'avais demandé de faire, pourtant je ne suis pas guéri. J'ai été un homme de prière, j'ai été un homme de piété, je me suis sanctifié, et pourtant ma plaie est encore devant moi, ma plaie est continuelle. Est-ce que parfois on ne serait pas un petit peu comme le prophète Jérémie ? Ce qui nous frustre et ce qui nous blesse, ce n'est pas la souffrance en elle-même, ce n'est pas la difficulté en elle-même, mais c'est le fait que nous ayons été fidèles à Dieu, que nous soyons fidèles à notre Dieu, et que pourtant, nous souffrions. Ça peut être dans plusieurs domaines. Certains me diront, voilà, moi dans ma vie familiale, dans ma vie de famille, mes enfants, je les ai bien éduqués. Je les ai éduqués dans les voies de Dieu, je leur ai donné le moyen de réussir, je leur ai fait bosser leur cours de maths, je leur ai bossé leur cours de français, ils ont fait des dictées, etc. J'ai fait tout ce que j'ai pu, je leur ai payé les hautes écoles. Et pourtant, leur vie n'est pas glorieuse. D'autres me diront, moi, ils sont allés à l'école du dimanche, tous les soirs j'ai prié avec eux. Pourtant, ils ne sont pas convertis. Et il y a cette souffrance qui est là. Cette souffrance qui est en rapport avec l'obéissance qui a été la nôtre. D'autres me diront, ma vie spirituelle, j'avance pas, j'ai l'impression de pas avancer. Pourtant, je prie tous les jours, je lis ma Bible tous les jours, je vais à toutes les réunions possibles et imaginables de l'Église, je cours au rassemblement à droite, à gauche, je vais sur le top chrétien, je consulte les prédications de Yonggi-shu en coréen, même si je ne comprends pas le coréen, peut-être que le Seigneur me parlera quand même. Pourtant, je souffre encore. Et je ne suis pas exaucé. Ma souffrance est continuelle. Mon corps, je l'ai toujours bien traité, je fais du sport. Je ne mange pas de charcuterie, je ne mange pas fromage. Pourtant, voilà que je suis malade. Point de vue professionnel, j'ai toujours été sérieux. J'ai toujours bien fait les choses. Pourtant, je galère. On se retrouve dans Jérémie. Et cette frustration est amplifiée lorsque nous sommes un petit peu comme le psalmiste Asaph dans le psaume 73 qui dira... Voilà, Azaf, c'est un homme de Dieu. Hein. La cheville, eh bien, j'ai bien failli tomber, ont bien failli chanceler, parce que j'ai posé mon regard sur les méchants. Et les méchants, tout leur réussit. Et nous, on pourrait traduire en langage moderne, je comprends pas, ils ont élevé leurs enfants n'importe comment, et eux, ils ont réussi. Ils viennent juste d'arriver à l'église, leurs gamins, eh bien, ils se sont convertis tout de suite, et les miens, rien. Lui, il envoie une lettre de motivation et il trouve du travail du premier coup. Alors c'est un païen qui passe son temps au bistrot et moi, je suis chrétien et je suis pas béni. Et on peut dire ce que l'on veut. Mais on est comme le prophète. Notre souffrance, elle peut être là, présente dans notre cœur. Et cette souffrance est plus de la frustration. Cette souffrance est plus de l'indignation. Et je le redis, et c'est un peu le centre du message. Moi, je suis bien, et pourtant je souffre. Moi, je suis bien, et pourtant je souffre. Oh, le psalmiste, comment est-ce qu'il s'en est sorti? Vous relirez le psaume 73. Il a passé du temps. Il dit même, dans un verset, cela a été douloureux quand je suis arrivé dans le sanctuaire de Dieu. Mais finalement, j'ai compris la ruine des méchants. Sur le long terme, ça ne tient pas. Et devant Jésus, ça ne tiendra pas. Et il conclura ce psaume 73 en disant, pour moi, ma richesse, eh bien, c'est m'approcher de Dieu. M'approcher de Dieu, c'est mon bien. M'approcher de Dieu, c'est mon bien. Ma souffrance est continue, a dit le prophète. C'est pas quelque chose de ponctuel, mais c'est quelque chose qui dure. Et on s'aperçoit que Jérémie, cette souffrance, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va lui faire remettre en cause les engagements qu'il a pris vis-à-vis de son Dieu. Il s'était engagé à être un prophète. Il s'était engagé à servir son Dieu. Il s'agit à se consacrer à son Dieu. Il savait ce qu'il attendait. Et pourtant, cette souffrance qu'il a, eh bien, va le faire remettre en cause. Alors, peut-être qu'il va se dire, j'ai eu tort de croire que Dieu était capable, j'ai eu tort de croire que Dieu m'aimait, j'ai eu tort de penser que Dieu avait, du prix aux yeux de Dieu, alors je fais marche arrière, et je quitte tout. J'ai eu tort de croire que Jésus est celui qui était capable de conduire ma vie, depuis que je suis à Jésus, c'est une véritable catastrophe, j'ai eu tort. Alors, eh bien on peut partir, et on peut retourner à ce que l'on a voulu. On peut se dire, j'ai eu tort de sacrifier ce que j'ai sacrifié. Et petite question qui me passe par. Est-ce qu'on l'a sacrifié ou alors est-ce que l'on a espéré de bon cœur ou alors est-ce qu'on a espéré qu'un ange viendrait arrêter le couteau? Seigneur, je vais bien le mettre sur l'autel. Je vais le mettre sur l'autel et puis on va y aller. On va se charger de la victime. On va la mettre sur l'autel. Mais tu vas bien envoyer un ange quand même. Puis là, il n'y a pas d'ange qui est venu et le sacrifice en a été de le faire. Et du coup, on se dit, j'ai eu tort de le faire. J'ai eu tort de le faire. Et là, je viens bien vous déposer un enseignement qui est une clé de la vie chrétienne. Bien sûr que Dieu aime la fidélité et je crois qu'il l'honore. Mais ne cherchons pas de phénomène de proportionnalité. C'est pas parce que nous serons très fidèles que nous serons très bénis, même si ce n'est pas français. Ce n'est pas parce que nous sommes un peu fidèles que nous serons un peu bénis. Ce n'est pas parce que nous offrirons tous nos biens aux pauvres. Ce n'est pas parce que nous parlerons toutes les langues du monde. Ce n'est pas parce que nous ferons des choses extraordinaires que nous serons beaucoup bénis. Fuyons cette pensée de nous dire que plus nous ferons des choses pour Dieu, plus nous accomplirons des grandes choses pour Dieu, et plus nous serons bénis. C'est un raisonnement qui est extrêmement humain, mais qui n'est absolument pas divin. Ce que Dieu nous demande, ce n'est pas d'être beaucoup fidèle. Ce que Dieu nous demande, ce n'est pas de beaucoup obéir. Mais ce que Dieu nous demande, c'est d'être tout simplement fidèle et de tout simplement obéir. Et Jérémie, il était là, j'ai été fidèle et je ne suis pas béni. Et mes frères et sœurs, ne nous leurrons pas. Et ce n'est pas forcément un message d'encouragement dans un premier temps que je vous délivre ce matin. Mais je pense que dire la vérité, c'est quand même quelque chose d'important. Je ne suis pas Dieu pour être béni. Je n'obéis pas à Dieu pour être béni. Je ne suis pas fidèle à Dieu pour être béni, pour obtenir des grâces quelconques. Je suis Dieu parce que je l'aime. Et c'est le seul motif. Jérémie a servi son Dieu et c'est ce que Dieu lui rappellera quelque part. Parce que Dieu lui avait fait des promesses. Et Dieu lui dira, reviens à moi. On le verra tout à l'heure. Il y a un enseignement riche. Si nous ne vivons pas avec cela sur notre cœur, eh bien nous serons des hommes et des femmes qui auront continuellement une plaie sur notre cœur. Qui auront continuellement une souffrance sur notre cœur. Parce que, eh bien, nous obtiendrons une forme de bénédiction par les œuvres. On ne parle plus ici de salut, parle, les œuvres. On l'a banni de notre vocabulaire, ça. Mais on parle ici de bénédiction par les œuvres. Je prie beaucoup, donc je suis beaucoup béni. Non. Je prie beaucoup parce que j'ai envie de prier. Parce que c'est normal de prier. Et un point, c'est tout. Et là, on pèse mieux la souffrance de cet homme. Et peut-être, mon ami, mon frère, ma sœur, que tu pèses mieux ta souffrance. Que tu mesures mieux ta souffrance, l'origine de ta souffrance. Quels sont les conséquences deuxième temps de cette souffrance pour Jérémie? On s'aperçoit que cette souffrance va déformer la vision que Jérémie a de son Dieu. Dieu deviendrait pour Jérémie une source trompeuse. Il va lui poser la question, mais il y a le doute qui vient dans son cœur. Est-ce que tu serais une source trompeuse, une source qui, eh bien, afficherait une belle apparence, et puis finalement, lorsqu'on s'en approche, il n'y a plus rien pour boire? Alors que je suis un voyageur asséché, alors que je suis un voyageur qui a besoin de se désaltérer, je m'approche de toi et voilà que je n'obtiens rien. C'est ce que dit Jérémie. Et on s'aperçoit que la souffrance, dans un premier temps, elle nous fait déformer les choses. La vision que l'on a de Dieu. Dieu devient finalement un Dieu moyen. Quelqu'un qui n'est plus omnipotent, quelqu'un qui n'est plus omniscient. Mais il est Dieu, quoi. Avec un petit D. On enlève la majuscule et on lui met un petit Dieu, un petit D. Le prophète perd la vision de qui est Dieu. Et mes frères et sœurs, ne perdons jamais la vision de qui est Dieu. Et sachons bien que nos souffrances, quelles qu'elles soient, nous feront toujours avoir une vision déformée des choses. Soit elles amoindriront les choses célestes. Et puis, elles auront tendance à avoir un effet loupe sur les choses terrestres. On verra Dieu plus petit et on verra nos cœurs plus sales. Notre souffrance plus grande. Elles déformeront les choses. Elles beaucoup plus laides. Et on ne verra plus des frères et sœurs extraordinaires, mais on verra tous les casse-pieds. Mais gloire à Dieu, il n'y en a pas ici. C'est avec votre pasteur. On verra tous les défauts dans les questions et on verra plus ce qu'il y a de bien. Cherchez-les, vous en trouverez forcément quelques-unes quand même. Au moins la lecture initiale. Simplement parce que la souffrance déforme profondément les choses. Et lorsque je souffre, je ne suis pas lucide. Lorsque j'ai mal, je ne suis pas lucide. Quand on est fatigué, on devient irritable, non? Quand je suis en manque de sommeil, ça c'est... Mes proches le savent, je deviens grognon. Ça arrive une fois par an en général, pas plus. Mais c'est automatique. Et quand j'ai une souffrance en moi, c'est exactement la même chose. Deux choses que la souffrance fait, je m'écarte un petit peu de mon sujet, je sors de mes notes, c'est qu'elle isole. Elle isole. Jérémie, il se sent seul. Voilà. Il n'est plus avec Dieu. Et il le dira, je me suis assis seul. Et ça me fait automatiquement penser au prophète Élie, qui, alors qu'il vient d'accomplir un miracle extraordinaire au Carmel, alors qu'il vient de faire quelque chose de fabuleux, eh bien, il va courir devant le char d'Akab, etc., pendant des kilomètres, il va faire un demi-marathon, Élie. Et puis là, il va aller dans le désert. Quel drôle de refuge. Et il va se mettre dans le jeûne et il va dire à l'Éternel, donne-moi la mort. Il va être seul. Donne-moi la mort. La souffrance est telle, il a peur de Jézabel. Donne-moi la mort. Alors, qu'est-ce que va faire Dieu? Voilà, il va le faire manger. Il va délivrer un ange cuisinier, là, et puis il va le faire manger. Mesdames, quand votre mari déprime, faites-lui un bon gâteau au chocolat. Hein? Et messieurs, lorsque votre femme déprime, emmenez-la au restaurant. Et cet ange-là, il va lui faire un gâteau qui va durer combien de temps? 40 jours. Pendant 40 jours, il y va marcher. Quelle nourriture! Extraordinaire! Et pourtant, où est-ce qu'on retrouve Élie? Dans une grotte. Il est dans une grotte. Et la voix de l'Éternel se fait entendre. Élie, que fais-tu ici? Il est dans une grotte. Y a-t-il des ours parmi nous? Y a-t-il des ours parmi nous? Ou des oursettes? Les hommes et les femmes qui passent qu'ils sont fatigués, eh bien, s'isolent et vont dans la grotte. Et auparavant, Élie aurait dit, mais je suis le seul. Je suis resté moi seul. Je suis resté moi seul à être fidèle. Je suis le seul à être fidèle. Mais Élie, tu oublies Abdias, qui a caché les prophètes de l'Éternel. Puis, il y a encore des hommes qui n'ont pas plié le genou devant Baal. Et vous remarquerez que Dieu ne lui répond pas de suite. Lorsque Dieu va lui dire, lorsqu'il va dire, Dieu, tu es seul, Dieu ne va pas répondre, il va le nourrir. Et ensuite, c'est juste à la fin du chapitre qu'il va lui dire, voilà, il y a tant d'hommes qui n'ont pas fléchi le genou devant Baal. Petite parenthèse, il y a des choses que nous ne sommes pas en état de comprendre quand nous souffrons. C'est pour ça que Dieu ne nous les dit pas. C'est pour ça que Dieu ne nous les dit pas. Troisième chose que le prophète Jérémie, que la souffrance va faire au prophète Jérémie. Revenez au début du chapitre 15 et vous lirez. Pourquoi est-ce que je suis venu au monde? Pourquoi est-ce que je suis venu au monde? Oh ma mère, pourquoi est-ce que je suis venu au monde? Lorsque je souffre, et lorsqu'un homme ou une femme souffre, de manière automatique, eh bien les choses du passé remontent à la surface. Tous les échecs, toutes les meurtrissures, et ça remonte loin, ça remonte déjà à la naissance, à la conception. Pourquoi suis-je venu au monde? La souffrance est une tempête qui déterre tout ce qu'il y a au fond de la mer. La souffrance est une tempête qui remue toute la boue que l'on a en nous. Et quand on y réfléchit un petit peu, de la boue, il y en a un petit peu, il y en a un paquet. Et quand ça bouge dans ma vie, alors de manière automatique, eh bien tout ce qu'il y a en dessous, pourquoi suis-je venu au monde ? Je souffre. C'est continuel. Et aujourd'hui, en langage moderne, on ira. Ça devient obsessionnel. Je souffre. Alors, me direz-vous, c'est bien, tu as posé un constat. Mais que dit Dieu maintenant? Bien Dieu, il va avoir une réponse qui va nous rendre. Dieu quoi souffrance, c'est comme je le dis, il répond forcément toujours comme s'il attend ou dans les délais. Première chose qu'il va dire à Élie, c'est premièrement, si tu reviens à moi, si tu reviens à moi, sous-entendu, tu t'es éloigné de moi. Jérémie, dans son idée, dans sa conception, ce n'était pas lui qui s'était éloigné de Dieu, mais c'était Dieu qui était éloigné de lui. Tu es une source trompeuse. Sous-entendu, tu n'es pas comme tu dois être. Moi, je suis bien. Et Dieu va dire à Jérémie, si tu reviens à moi. Oh. Avons-nous dit, Seigneur, Seigneur, tu t'es éloigné de moi. Ce matin, quelqu'un pense-t-il dans son cœur? Tu t'es éloigné de moi. Je ne sens plus ta présence comme avant. Je ne vis plus ma foi de la même manière qu'avant. J'ai perdu quelque chose en route. Tu t'es éloigné de moi, Seigneur. Ce texte nous montre une chose. Et confirme une chose. C'est que Dieu ne s'éloigne pas de nous, mais c'est nous qui nous éloignons de lui. Souvenons-nous de ce que Paul dit aux Romains. Romains, chapitre 8. Qui nous séparera de l'amour de Dieu? Ni les tribulations, ni la mort, etc. Ni les puissances d'en haut, ni les puissances d'en bas. Rien ne nous séparera de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Ce qui signifie que Dieu nous aime, et un point c'est tout. Et que rien ne nous séparera de l'amour de Dieu, que rien ne nous en éloignera. Sinon nous. Et mon frère, ma sœur. Dieu ne s'est pas éloigné de toi. Dieu ne s'est pas éloigné de toi. Contrairement à ce que tu penses. Mais c'est toi qui t'es éloigné de lui. C'est petit à petit a mis un écart entre lui et toi. Deuxième chose que Dieu dit, je te ferai revenir à ton poste près de moi. Jérémie est encore prophète. Ce qui veut dire qu'il parlait encore de la part de Dieu. Le prophète, c'est celui qui parle de la part d'eux. On peut faire des choses, je vous le dis, je ne m'étendrai pas là-dessus. En qualité d'eux, mais sans être. Et je vais parler pour ma paroisse. On peut être pasteur, avoir le titre de pasteur sans en être un. Ensuite, transposer à vos propres vies. Hein. On peut être un chrétien, avoir l'apparence d'un chrétien sans en être un. Que le Seigneur nous garde. Les titres ne sont rien, mais l'être est tout. Et ce que j'aime, c'est que Dieu va dire, écoute Jérémie, je prends conscience de ta souffrance. Je sais que t'en baves, mon garçon. Va te reposer un petit peu. Hein. Ou alors, prends quelques temps de vacances et pars pendant 6 mois. Ah ouais, je comprends, ils sont pénibles ton peuple. C'est mon peuple, moi je les ai supportés, mais moi je suis Dieu, je comprends que t'en es marre. Allez, arrête un petit peu, arrête, prends un break, fais un break. Non, que va dire Dieu? Si tu reviens, bref, continue. si tu continues à avancer, alors tu seras. Deuxième chose, le salut n'est pas dans les vacances, bien qu'il en faille. Sinon, je vais me faire trucider par ma femme. Mais se dire, voilà, ça va pas, je prends du recul et vivre dans l'isolement, c'est le meilleur moyen de cultiver sa dépression ou de cultiver son mal-être. N'oublions jamais, après, il va falloir que je conclue, que notre Dieu renouvelle les forces pendant la marche. Mais c'est pas la vraie conclusion, je dis ça juste pour vous faire patienter, pour t'en être honnête. Troisième chose, si tu sépares ce qui est vil de ce qui est précieux. Alors, j'ai fait toute une liste de choses que l'on doit séparer, ça fera peut-être l'objet de notre prédication dans 10 ou 15 ans. Si tu sépares, c'est sous-entendu, tu as un tri à faire en toi, Jérémy. Peut-être que tu as un tri à faire d'activité, peut-être que tu as un tri à faire dans ta manière de voir des choses, un tri à faire dans tes pensées, un tri à faire dans tes conceptions. Si tu sépares, sous-entendu, ça aboutit à une chose, ça aboutit à hiérarchiser. Pour séparer, il faut faire un tri entre ce qui est propre, entre ce qui est précieux et ce qui ne l'est pas. Souvenons-nous que Dieu va le faire, que Jésus va le faire, pardon, lors du tribunal des récompenses là-haut. Hein? Et que nos vies vont passer au feu et que seuls l'or, les pierres précieuses et l'argent demeureront. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice et toutes choses vous seront données par-dessus. Voilà, c'est la conclusion de ce point-là. Si tu sépares ce qui est précieux de ce qui est vil. Alors, en conclusion, comment gérer ma crise? Comment synthétiser tout ça? Et en préambule, je dirais qu'avoir des crises, c'est pas un péché. Vivre ce que Jérémie est en train de vivre, c'est pas un péché. On en vivra tous. Et si vous n'en avez pas vécu, mes frères et sœurs, eh bien, sachez bien une chose, c'est que vous en vivrez. Il en est ainsi. Tous les hommes de Dieu en ont vécu. Quelle doit être mon attitude face à une crise semblable à celle de Jérémie? Première chose, c'est prévenir. Être capable de se séparer, de hiérarchiser les choses dans ma vie, c'est une garantie. Je ne dis pas c'est la garantie, c'est une garantie pour prévenir des chutes trop douloureuses. Et ensuite, toujours dans ce domaine de prévenir, je sais que je traverserai des défis. Encore faut-il m'y préparer et ainsi acquérir ce que j'appelais du foncier. Je vous le dis, et vous le savez, demain ou après-demain, vous pouvez subir des épreuves. Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Demain, vous savez que votre maison va brûler. Je ne vous le souhaite pas. Qu'est-ce que vous faites? Il me semble qu'on prend des précautions. Au moins, on appelle les pompiers, on essaie de les faire venir pour le jour. Enfin, on essaie de chercher où est-ce que l'incendie peut venir. Si on s'aperçoit qu'il y a un mauvais branchement électrique, eh bien, on fait ce qu'il faut. Demain, si vous avez une tempête, et si j'ai une tempête dans ma vie, une crise dans ma vie, est-ce que j'y suis préparé? Est-ce que je me tiens devant Dieu pour tenir bon? Est-ce que je mets tout en œuvre pour prévenir les choses? Ou alors, est-ce que je la prendrai de poulain fouet et que je ne serai pas capable de tenir à distance? Parce que les crises, ça peut durer parfois. Première chose, prévenir. Deuxième chose, vivre dans la crise. La crise n'a pas vocation à me faire arrêter ma marche. Peut-être la ralentir, parce que je suis fatigué. Mais en aucun cas l'arrêter, en aucun cas me replier, mais tout simplement continuer de vivre et continuer à vivre. Troisième temps, attendre. Et ça, c'est peut-être le temps le plus difficile. Et je conclurai sur un texte des Lamentations de Jérémie au chapitre 3. Et après, c'est vraiment fini. Lamentations de Jérémie au chapitre 3, les versets 21 à 27, gardez-les sur votre cœur. Gardez-les sur votre cœur, ces versets-là sont extraordinaires. Lamentation de Jérémie, chapitre 3. Je retrouve. Allez, lisez-le avec moi. Voici, Jérémie assistait à la ruine de Jérusalem. Voici ce que je veux repasser à mon cœur, c'est pourquoi j'espère. C'est que la bienveillance de l'Éternel n'est pas épuisée et que ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Grande est ta fidélité. L'Éternel est mon partage, dit mon âme, c'est pourquoi je veux m'attendre à lui. L'Éternel est bon pour ceux qui espèrent en lui, pour celui qui le cherche. Le verset 26. Il est bon d'attendre en silence le salut de l'Éternel. Il est bon pour l'homme de le joug dans sa jeunesse. Attendez. Le salut ne manquera pas. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen.